présenté par Perrine Kervran
et préparé par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ.
Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire Vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. « Votre fumée montera vers le ciel », c'est le titre du récit de Joseph Bialo, qui raconte dans une langue crue, poétique et brutale son retour des camps dans une Europe sans dessus-dessous où les règles n'existent plus, après la libération d'Auschwitz le 27 janvier 1945 par les troupes soviétiques. Au cours d'une traversée en bateau qui le conduit d'Odessa à Marseille, il se souvient des visages, de la violence, de la mort, des privations, de la faim, de la maladie, mais aussi de quelques comportements héroïques et de rencontres inoubliables. Ce livre intitulé au départ « C'est en hiver que les jours rallongent » paru au Seuil et reparu sous le titre « Votre fumée montera vers le ciel » augmenté d'une préface. Joseph Bialo, donc, qui est avec nous aujourd'hui, est un homme qui a eu plusieurs vies, un résistant, un artisan, un chef d'entreprise, un auteur de polar, un vieil étudiant en psychologie et, comme il le dit lui-même, un ancien pyjama qui pète le feu mais qui est mort à l'intérieur. Alors pour commencer, je voulais évoquer avec vous la question de la langue, de la gouaille aussi, puisque vous maniez l'argot avec panache, donc de l'amour de la langue que l'on sent chez vous et de la conscience que vous avez de la force des mots et de leur violence.
Bon, pour moi, c'est un élément essentiel. D'abord, vous savez, je suis un métèque, je suis né à l'étranger. Et quand je suis arrivé en France en 1930, j'avais 7 ans, et évidemment, je ne connaissais pas un mot de français, ce qui s'appelle rien. Et la langue a été mon premier lien avec la France. Il a fallu que j'apprenne le français. Je l'ai raconté, j'ai lu dans un bouquin, mon premier classement à l'école, c'était en octobre 1930. J'étais le dernier de la classe, bien sûr. Et on m'a gardé en retenue. On m'a puni parce que j'étais le dernier de la classe. J'étais le dernier parce que je ne comprenais rien. Bon, et la langue, ça me paraît, pour moi, c'est l'élément essentiel qui forme la nationalité. Hein. Hitler, je fais un curieux parallèle, mais c'est vrai, Hitler, dans ses revendications d'annexion de pays, ne s'adressait qu'aux pays qui avaient des gens dont la langue essentielle, primordiale était l'allemand. C'était l'allemand qui regroupait les Allemands. D'ailleurs, vous avez sous le nazisme, vous avez les Reichsdeutsch, qui sont les Allemands du Reich, de l'Allemagne elle-même, et les Volksdeutsch, ceux qui parlent l'allemand. Et pour moi, la langue, c'est un élément d'union. D'ailleurs, et c'est autre chose aussi qui est beaucoup plus important, lorsqu'on parle d'immigration, par exemple, on parle de ghetto. C'est tout à fait logique et normal, quelqu'un qui arrive dans un pays étranger ou dans un monde étranger où il ne connaît rien, ni personne, il va d'abord aller vers celui qui comprend ce qu'il dit. C'est tout à fait logique.
Et est-ce que vous pouvez nous dire, Joseph Bialo, comment vous avez choisi ces titres? Alors, ces deux titres qui sont très forts. Donc, d'abord, c'est en hiver que les jours rallongent. Et puis, donc, ce nouveau titre que vous avez donné à ce récit.
Alors, c'est en hiver que les jours rallongent. Je peux vous le montrer. Je l'ai dans le bureau. Je l'ai encore. Je crois que c'est en 2000 ou en 2001. Le bouquin est paru en 2002. Donc, c'est dans ces eaux-là. C'était comme maintenant. Vous voyez, on est le 20. C'était le solstice d'hiver, ça devait être le 21 ou le 22 décembre, je ne me souviens pas de la date exacte. Et moi, je suis très sensible, c'est le solstice d'hiver, c'est l'équinoxe de printemps, ce sont des choses que je remarque. Là, demain, c'est l'hiver. Le 21 décembre, cette année, c'est l'hiver. Et je me suis dit, tiens, c'est l'hiver, les jours vont rallonger. Et même réflexion aujourd'hui, à part la semaine prochaine, les jours rallongent. Hein? Et j'ai encore le dossier, j'ai marqué « C'est en hiver que les jours rallongent », titre possible pour un récit sur la déportation. C'est tout, vous connaissez le bouquin.
Et ce second titre
le second titre, parce que moi je crois qu'il était nécessaire de rajouter quelque chose, j'ai rajouté une quarantaine de pages quand même, parce qu'il fallait faire le point. Qu'est-ce qui se passe 40 ans après les camps? Les camps, pour moi, c'est un événement, bon, je dis que ce sont des clichés maintenant, mais c'est un événement invraisemblable, incroyable, impossible. C'est impossible, ça a eu lieu. Hein? Ce matin, je me suis réveillé, je n'étais pas en forme, parce que hier, je regardais un film à la télé sur l'exécution d'Heydrich en Tchécoslovaquie. Ça m'a foutu remarquable d'ailleurs, un vieux film. Ça m'a foutu un sentiment de malaise. Et le titre, il fallait donc faire le point aujourd'hui. C'est un point superficiel parce que j'ai fait 40 pages, on peut en écrire 500. Et le titre vient de... vous connaissez le poème de Paul Celan. Je voulais l'appeler d'abord des nuages profonds comme des tombeaux par rapport au vers de Baudelaire. Nous aurons deux vivants profonds comme des tombeaux, etc. Et puis, je me suis aperçu, je crois que Samproun vient de ça, avant sa mort, a sorti un livre où il est question d'une phrase du même genre. Et alors, en relisant le poème, je me suis dit, tiens, il n'y a pas de tombe à Auschwitz. C'est ça qui est caractéristique. Il y a eu 1 million de morts à Auschwitz, environ. Il n'y a pas de tombe. Tout s'est passé en nuages. Et c'est une de mes grandes revendications, qui n'aboutira jamais, moi, je veux qu'on ferme Birkenau. Que Auschwitz soit transformé en musée, un truc à touristes. À touristes et à mémoire aussi, il faut moduler. Mais à Birkenau, vous marchez sur des cendres humaines. La terre est imprégnée de cendres. Et moi, j'aimerais bien qu'on ferme et qu'on plante des arbres. Et qu'on ferme sa gueule.
Alors, vous avez effectivement, pour ressortir ce livre, Joseph Biallo, rédigé une préface. Donc, vous avez ajouté quelque chose. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter d'essentiel à ce récit qui est déjà implacable et fort? Et on sent que dans cette préface, vous êtes un homme encore en colère.
Je ne suis pas en colère. Je ne crois plus en rien. Regardez, bon, je ne sais pas quel pays vous citez, au Pakistan on s'entretue, en Afghanistan on s'entretue, en Irak ça vient de se terminer, encore, si je viens de se terminer, c'est un entracte, ça recommencera. Et il y a quelque chose qui déconne sur cette planète. On a franchi un palier technologique absolument invraisemblable et impensable qui a envoyé toutes les idéologies, c'est ma théorie, je ne dis pas que c'est vrai, hein, toutes les idéologies sont maintenant au placard parce qu'on vit dans la technologie. Dans un monde virtuel. Les gosses ne jouent plus avec un cerceau ou avec une corde, ils jouent avec des trucs virtuels, avec des Game Boy. Hein. Alors, dans cette société qui pourrait aujourd'hui, avec les progrès techniques qu'on a atteints, vivre d'une manière épanouie, tranquille et peinarde, c'est pas des clichés, c'est vrai. Et bien, qu'est-ce qu'on fait, hein? Regardez le Caire, regardez le Pakistan, regardez le Venezuela avec le dingue qu'il dirige. D'ailleurs, c'est caractéristique, je vous parlais de la Corée, il n'y a que 2 pays qui ont envoyé des félicitations presque, entre guillemets. C'est l'Iran et le Venezuela. Curieux, non?
Dans votre livre, si on en revient à ce livre, on a l'impression en le lisant que plus qu'une description de cette non-vie qui régnait dans les camps, vous faites aussi un tombeau pour tous ceux qui ont été assassinés.
Pour tous ceux?
Qui ont été assassinés.
Non, je ne fais pas un tombeau, c'est pas préconçu. Il ne peut pas ne pas y avoir de tombeau. On était à peu près 350 dans ce convoi. Je ne parle pas de ceux qu'on a laissés en Alsace, au Struthof. On était environ 350, et sur les 350, je crois qu'on est 30 à avoir survécu. Ce qui est un chiffre énorme. Énorme. Ça fait 10% à peu près. Hein. Le chiffre n'est pas vrai, il n'est pas précis. Environ 10%. Alors que si vous prenez les chiffres des rescapés des camps, je parle des déportés juifs, je ne parle pas des déportés résistants ou politiques, il y a eu 2300 survivants sur 76 000. Vous voyez le pourcentage? C'est un convoi exceptionnel. Il faut vous dire qu'on est arrivé les derniers, qu'on est arrivé en wagon voyageur, qu'on a évité, on a eu une sélection, mais nuancé, j'ai raconté d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a 2 numéros au bras. Le convoi du 22 août 44 porte 2 numéros au bras, sauf un type. Et ça, je le raconterai dans un bouquin que je vais peut-être écrire. Voilà.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, dans ce livre, vous dites des choses qui sont très fortes, qui sont très crues, qui sont très noires, bien sûr, et vous dites que quand on entre au camp, on n'en ressort jamais.
Non, on n'en sort pas, mais j'en suis pas sorti. J'ai été libéré le 27 janvier 45, donc dans quelques jours, dans un mois plutôt, 45, ça fera 66 ans, c'est ça? Bon, j'en suis pas sorti. 66, 67. Ben, moi, j'en suis pas sorti. Je dis, je suis pas à l'aise ce matin parce que hier soir, j'ai vu un film qui m'a replongé dans ces peuples. On peut pas en sortir. Et je maintiens que les gens, ne pouvant pas rester au camp, l'emportent avec eux. Et que j'ai rencontré des gens, un copain à moi, qui ne se rappelait absolument de rien. Il avait tout effacé, tout ce que t'amusait, tout. Mais ce n'est pas vrai, parce que la nuit, il n'y a plus de contrôle, et ça revient. Il n'y a plus de contrôle lorsque vous dormez, lorsque vos rêves ou vos cauchemars démarrent. Alors, vous, en apparence, il avait tout oublié, en fait. On ne peut pas décrocher. On a vécu, on est les derniers maintenant, puisque je vous dis, soit ça, vraiment les derniers, hein, c'est la fin. Ça dure X semaines ou X mois, ou peut-être encore 2 ou 3 ans, mais c'est fini. Moi, j'avais 21 ans à l'époque, j'en ai 88 aujourd'hui, ça ne durera pas éternellement. Or, personne parmi les anciens déportés ne peut sortir de ce piège. Personne. C'est un événement, c'est pour ça que je dis que c'est invraisemblable et incroyable. Ça n'a jamais eu lieu. Il y a eu des atrocités, des villes passées au fil de l'épée, des peuples assassinés, des peuples exterminés. Ça, ça n'a jamais eu lieu. Jamais. Moi, j'ai vu ces bonnes images, c'est l'image synthétique de ce que pourraient être les camps. J'ai vu à l'entrée de... Je n'ai jamais oublié, à l'entrée d'Odessa. Ça doit donc se situer... On est arrivé à Odessa, je crois, le 30 avril... Ouais, ça doit être le 30 avril, puisqu'on a embarqué le 2 mai. Et le train s'arrête, on était en wagon abaissé aussi, mais pas de porte fermée, pas de sentinelle. On descendait du train quand il s'arrêtait dans une gare. Et à l'entrée de Odessa, le train s'arrête. Et à côté de la voie, un empilement colossal de pierres tombales, avec les caractères hébraïques. Même les pierres tombales avaient disparu. Hein? Et alors ça, c'est un événement qui n'a jamais eu lieu. Comment voulez-vous l'effacer? Alors, moi, j'ai une vie normale, j'ai une femme fabuleuse, j'ai des gosses, j'ai des petits-enfants. En apparence, je suis un type absolument normal, mais j'ai quelque chose en moi que personne ne connaît. Et que je ne peux pas éliminer. C'est peut-être pour ça que j'écris.
Oui, justement, c'est peut-être pour ça que vous écrivez. L'écriture, vous n'y êtes pas venu tard. Vous avez écrit très tôt.
Comment?
Mais pas, vous n'êtes pas venu tard à l'écriture, vous y êtes venu assez tôt. Mais par contre, au récit de ce qui s'est passé dans les camps, ça, vous y êtes venu plus tard.
Non, j'ai commencé à écrire à 55 ans, arrêtez.
Oui.
Vous avez commis des erreurs.
C'est venu beaucoup plus tard, le récit. C'est-à-dire que vous avez commencé
à les camps, les camps, non, je ne peux pas en parler. J'ai écrit deux bouquins à chaud. Il y a une seule... Une amie, elle vit toujours, c'est une vieille dame aujourd'hui, qui en a lu un. Et je les ai jetés, parce que je n'avais pas la moindre idée de publier un bouquin. Et être écrivain, c'est un truc impensable. À l'époque, je sortais des camps, je n'avais pas un rond, je revenais, il fallait que je me mette au boulot. Bon, et le... L'écriture est venue après. Elle est venue après l'analyse. Parce que j'ai fait une analyse pour d'autres raisons. Une raison très précise, familiale, qui a fait que d'un seul coup, j'ai perdu l'équilibre. Ma compensation disparaissait. Et j'ai été voir, peu de temps après, j'ai entrepris une analyse qui a été efficace, qui a effacé mes migraines, qui a... Bon, moi, un tas de trucs qui ont disparu. Bon. Ça, pour moi, l'analyse a été quelque chose, c'est pas vrai pour tout le monde, pour moi, ça a été quelque chose de très, très, très positif. Et quelques années après, j'ai eu un autre problème. Ma sœur s'est tuée en voiture. Bon. Et ça m'a foutu. On avait des relations très, très chaleureuses, très, très affectueuses, tous les deux. Et d'un coup, j'en ai pris plein la gueule de nouveau. Et je suis retourné voir mon analyste. Simplement comme en face à face pour un entretien. Et j'ai dit, je suis dans une situation absolument stupide, j'arrive même plus à écrire un bouquin. Et elle m'écoute, on bavarde, et elle me dit, moi, c'est pas ça que j'entends. J'entends que vous n'avez pas envie de lire, vous avez envie d'écrire. Authentique, hein. Ma femme, que vous avez vue, elle... J'étais souvent malade du cœur, je suis encore. Et j'étais en arrêt de maladie. Et je tournais en rond, à la maison. Je tournais en rond. Et elle partait travailler, à Montreuil, elle avait une heure de trajet, 8 heures du matin, pile. J'entendais Europe numéro 1, c'était pas France Culture, et la porte qui se fermait, ma femme qui partait au boulot. Et elle me dit un jour, « Mais au lieu de tourner en rond, t'as envie d'écrire depuis le temps que tu en parles, tu n'as qu'à t'y mettre. » Alors je lui dis, « J'ai pas de bureau. » Allez le voir, je l'ai là, c'est une plaque de verre. Et je me suis mis à écrire, pas l'intention de publier quoi que ce soit. Je commence, je me dis, « Qu'est-ce que je peux bien écrire ?» Et j'adore le roman policier, pas celui d'aujourd'hui, hein, c'est de la bouillie pour les chats, les vrais romans policiers. Et je me mets à écrire un roman policier, et je me dis, qu'est-ce que je connais? Je connais bien mon quartier, je travaillais dans le sentier à l'époque, je vais faire un roman policier qui se passe dans le sentier. Et puis, je prenais pas ça au sérieux, les personnages, je leur ai donné les noms de tous les révolutionnaires de la révolution bolchevique. Alors il y avait Staline, il y avait Molotov, il y avait... Et alors, j'en ai gardé qu'un. Alors, au bout d'une trentaine de pages, j'ai réalisé que j'avais une histoire. Et j'ai changé les noms. J'ai gardé juste le nom de le Staline, qui s'appelait Joseph Vissarionovitch. C'est ça son vrai nom. Joseph Vissarionovitch. Mon tueur s'appelle Josip, parce qu'il est yougoslave. J'en ai fait un yougoslave. J'ai transformé Joseph en Josip. Et il s'appelle Josip Vissarionovitch. C'est le salon du prêt-à-saigné. Et je l'envoie chez Gallimard par la poste. Alors, des trucs invraisemblables. Je connaissais personne, mais ce qui s'appelle personne dans l'édition. J'envoie le bouquin par la poste chez Gallimard. Je ne savais même pas que c'était Robert Soula qui était le patron. J'envoie Collection Série Noire, Édition Gallimard, oui, Sébastien Botin.
Vous n'aviez pas choisi n'importe quel éditeur et n'importe quelle collection.
Non. Attention, j'avais lu, j'ai lu les 1000 premiers numéros de la Série Noire. Hein. Chaque semaine, j'allais chercher mes bouquins. Et c'était le 7 février. J'ai encore le reçu de la poste, je l'ai dans mes papiers. Et le 2 mars, qui est absolument invraisemblable, ça fait même pas un mois, un bouquin envoyé par la poste, j'ai un coup de fil, c'était le 1er mars. J'ai eu un coup de fil d'un monsieur qui s'appelle Robert Soula, qui était le patron de la Série Noire, qui me dit, j'ai lu votre manuscrit, viens me voir. Et je suis débarqué chez Gallimard le 2 mars 1978. Et le bouquin est sorti, alors là, le truc invraisemblable, je répète, je ne connais personne. Hein. Le bouquin sort, il obtient le prix de littérature policière. Alors d'un coup, quoi, je suis devenu la starlette. Il manquait une vitrine pour exposer mes fesses et tout était gagné.
Et donc, vous êtes devenu un auteur de polar à ce moment-là?
Ah oui, j'en ai écrit 10 à l'époque. J'en ai publié 12 chez Gallimard, 10 avec Soula. Je lui ai donné un bouquin sur la déportation, ou ce qui se passait à Auschwitz. Et il me l'a rendu, et c'est ce que je suis en train de reprendre là, en me disant ou vous écrivez un polar ou vous écrivez un récit sur la déportation. Mais ça colle pas, ça. J'ai mis de côté, il est là. Il s'appelle Les Éphémères, j'ai encore le titre. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ah oui, j'ai écrit un bouquin quand même sur les camps, c'est la nuit du souvenir, c'est ça, hein, oui.
Ouais.
La nuit du souvenir. Et la nuit du souvenir...
En 90.
Je ne me rappelle pas les années, il est réédité en folio. J'en ai quand même écrit 35 ou 36, hein, ça commence à compter.
Vous aviez conscience d'utiliser le roman policier pour évacuer un certain nombre de choses et puis aussi pour faire passer un certain nombre de choses auprès du public, c'est-à-dire malgré tout vulgariser aussi cette histoire et la transmettre.
Non, je sais pas ce que je cherche. Il est incontestable que le roman policier me fait du bien à moi. Je vis de ma violence. Tout ce que j'ai comme violence refoulée, j'en ai un paquet depuis cette époque. Il y a des gens que, vraiment, c'est la haine. Je sais ce que c'est que la haine. Il y a des gens que je vois à la télé, j'explose. Et ça me sert d'exutoire, le roman policier. Mais j'en écris presque plus. Hein. Maintenant, je suis plongé, j'ai écrit, vous avez lu 186 marches vers les nuages? Dans les nuages, non? C'est l'histoire de l'escalier, ça se passe à Berlin en 1945, l'histoire d'un rescapé allemand, qui a passé, j'en ai connu, qui a passé... 1933 à Hitler, 34, donc de 34 à 45, 11 ans dans les camps. Hein, et qui termine, c'est un rescapé qui m'a donné l'idée du bouquin, il est mort aussi il y a 2 ans. Personne ne connaît cette histoire, si, je si, j'en connais cette histoire, mais peu la connaissent. Le 2 mai 45, le 2 mai, la guerre se termine le 8, les Allemands à Berlin arrêtent la bataille avec les Russes. Ils signent l'arrêt des combats avec les Russes. La guerre n'est pas finie. Le 3 mai, les Allemands embarquent tous les déportés de Sachsenhausen et l'autre camp, comment il s'appelait, j'ai un trou de mémoire ce matin. Ils les embarquent et les foutent sur 4 bateaux. 4 bateaux, vous avez les noms, il y a le Deutschland, il y a le... À mes yeux, c'est mon meilleur bouquin sur les camps, bien, bien plus fort que celui-là. Ils embarquent pour... Et les cadenasses dans les bateaux. Il y a un bateau qui ne part pas, il est en panne. Il reste à quai, ça se passe à Kiel. Les SS font croire aux Anglais que sur les bateaux, ils sont tous dans les cales, hein. Il n'y a pas de chiottes, il n'y a rien. Ils sont cadenassés comme. On parle d'esclavage, du transport des esclaves. J'imagine qu'il y a un certain rapport au point de vue atmosphère. Ils sont bouclés dans les cales et. Les SS font croire aux Anglais que ce sont des SS qui partent en Norvège pour continuer la guerre. La Royal Air Force arrive, on connaît le nom des pilotes, les escadrilles, les numéros, on a tout. Hein. Ils foutent les 3 navires au fond de l'eau. Et j'ai connu un rescapé. C'est lui qui m'a donné l'idée de... Il me dit, il faut que tu racontes l'histoire du Cap Arcona. Le Cap Arcona, c'est le nom à l'époque, de ce qui était l'équivalent pour le Normandie en France, comme paquebot. Et il sert de transport de troupes, c'est la guerre. Et c'est le plus grand naufrage de l'histoire. Il y a eu 8000 déportés noyés le 3 mai 45, à 5 jours de la fin de la guerre. C'est une histoire prodigieuse. Le frère de Malraux, Roland Malraux, était à Neuengamme, le camp dont je cherchais le nom, était à Neuengamme, et il est mort noyé dans l'histoire du Cap Arcona. C'est une histoire fantastique. Ça n'a jamais eu lieu, des trucs comme ça. Alors, les Anglais n'ont pas ouvert les archives, hein. Ils ne veulent pas dire ce qui s'est passé. Il y a eu deux naufrages colossaux avant la fin de la guerre. Il y a eu, comment il s'appelait, ce navire allemand? Mais c'est en janvier que ça se passe. Donc, c'est la guerre et c'est un acte normal. Les Allemands évacuent les gens de Prusse orientale. Il y a 6000 Allemands sur un paquebot. J'ai oublié son nom. Non. Et on est en janvier, hein, c'est la guerre. Il est en Baltique, il va vers Hambourg ou autre, et un sous-marin russe est là, il s'offre le bateau russe. Il y a eu 6000 noyés, 6000 Allemands noyés. Mais là, c'est un acte de guerre, tandis que ce que je vous raconte, c'est un assassinat collectif, c'est pas autre chose.
Si on en revient donc à ce livre, ce qui fait la force de ce témoignage sont aussi les petites scènes que vous racontez et qui disent l'humanité qui pousse malgré tout dans les pires conditions. Vous évoquez ce médecin viennois qui continue à dire monsieur,
docteur Pollack, oui.
Voilà, et ce déporté Pierre qui refuse de faire la sélection. Voilà, vous évoquez comme ça des figures de...
Bien sûr, ça existait, heureusement. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur le docteur Pollack? Il a été tué quelques jours avant la libération. Il a eu un geste malheureux, je me rappelle encore, il a levé une pelle au moment où les types de la Wehrmacht étaient rentrés dans le camp pour chercher à bouffer. Ils ne cherchaient pas autre chose, ils ne cherchaient pas à tuer, ils cherchaient à manger. Une armée en retraite, elles sont toutes pareilles. J'ai vu l'armée française en 40, moi. On n'était pas nés. J'ai vu ce que c'est qu'une armée en retraite, une armée en débandade. C'est l'armée française, la première du monde à l'époque, en déroute. Et j'ai vu l'armée allemande, la Wehrmacht, en déroute en 45. Je racontais avec l'Allemand qui a demandé une paire de bottes, du pain et des bottes. J'ai jamais oublié non plus cette histoire-là. Ça se passe la veille de la libération, le 26 janvier. Et le docteur Pollack, il a dû être tué, il a été tué entre le 18, vers le 20, 23 décembre, 23 janvier.
Et puis vous parlez aussi, Joseph Biallo, beaucoup des femmes. Dans votre livre, des femmes, donc de ces femmes juives qui étaient donc déportées, qui étaient en camp et qui, à la fois, vous avez comme ça, vous vous êtes fait émerger des figures.
Mais bien sûr, c'est une amie qui m'a raconté ça. J'en parle d'ailleurs, elle s'appelait Micheline. Quand on l'a ramenée d'Allemagne, elle avait le typhus, elle était mourante. Elle est arrière-grand-mère, elle doit avoir, je sais pas combien d'arrière-petits-enfants. Elle vit toujours. Je touche du bois pour elle. Et c'est elle qui m'a raconté. Je n'avais pas de contact avec les camps des femmes, c'était pas possible. C'est elle qui m'a raconté ce qui se passait dans les camps des femmes. Alors évidemment, il y a des choses atroces dans les camps de femmes, mais il y a aussi des gestes comme l'histoire du maquillage que je raconte, qui est absolument vraie.
Vous pouvez nous raconter peut-être?
Non.
D'accord. Alors vous dites souvent, pour finir, Joseph Biallo, que vous ne pouvez ni ne voulez retourner à Auschwitz, ni pour vous, ni pour témoigner, ni pour commémorer.
Non, je ne commémore pas. Lorsqu'on a fêté le 60e anniversaire, c'est le 60e, hein, la libération des camps, j'étais assis là devant la télé. Et je regardais tous ces tueurs en train de rendre les honneurs aux victimes. C'est pas les assassins, c'était les parents. Mais je ne supporte pas, je n'y peux rien. Et puis on ne commémore pas collectivement. On peut dire le 14 juillet, c'est d'accord, le 11 novembre c'est la fin de la guerre, le 8 mai c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Avoir une pensée pour tout ça, mais la commémoration est individuelle. Si vous avez eu un copain qui a été tué, vous vous rappelez. Vous n'avez pas besoin d'une date officielle. Et moi, je ne supporte pas, je ne dis pas que les autres ont tort, hein. Chacun fait vie avec ce qui l'arrange. Moi, les commémorations officielles, je ne marche pas. C'est tout.
Merci beaucoup. Je rappelle, Joseph Biallo, que votre livre « Votre fumée monte à vers le ciel » vient de paraître aux éditions de l'Archipel.
C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Deux adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet, www.radio-rcj.info, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain. Mais tout de suite, on retrouve « Dis-moi qui tu cites, je te dirai qui tu es » avec Ilana Sicurel.